Je vais vous parler des 7 facteurs de l'éveil. Dans ces 7 facteurs, il y en a un qui fait la trame, le support, tout le long. C'est la pleine conscience. Donc c'est un des 7. Il soutient les 6 autres, si vous voulez. Hein, il s'enchevêtre avec les 6 autres. 3 de ces 6 autres facteurs de l'éveil sont l'investigation, l'énergie, et la joie. Ils sont énergisants. Les 3 autres, calmes. Ils sont calmants. Il y a la tranquillité, la concentration, et l'équanimité. Voilà les 7. Ces 7 facteurs de l'éveil, finalement, rassurent. Ils nous rassurent dans notre pratique, quand on ne sait pas trop où on va, où on est, etc. Eh bien, avec ces 7 facteurs, au moins, on sait qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Donc, on va parler d'abord de la pleine conscience. Quand on l'applique, elle nous permet de voir certaines choses, comme notre histoire personnelle. Mais ça nous permet de voir cette histoire dans le calme, la douceur, avec plus de clarté. Elle s'applique aussi à nos sensations. Sensations corporelles, c'est soit agréable, soit désagréable. Si c'est agréable, on sait qu'on en veut plus, l'avidité arrive. Si c'est désagréable, on sait qu'on le rejette et l'adversité arrive. Le dégoût, toutes les réactions de refus et de rejet. Et la pleine conscience, on peut l'appliquer dans ces cas parce qu'elle nous aide à voir notre relation à cette gamme de douleurs quand c'est désagréable, sans chercher à la fuir. C'est ça la différence. C'est que dans la vie, quand on n'a pas appris à utiliser la pleine conscience, dès qu'il y a de la douleur, sauf qu'il peut, il faut absolument que je prenne un cachet pour la douleur, ou alors que je fasse autre chose, mais il n'est pas question de la sentir. On en a peur. Et plus on a peur de la douleur, plus on se crée. crispe, et plus on se crispe, plus ça fait mal. Et donc il y a une très grande aversion à la douleur. Alors que, grâce à la pleine conscience, on apprend à l'observer. Et finalement, on se rend compte qu'en l'observant, on peut voir des différences, on peut voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant, parce qu'on avait peur de la regarder. Il y a une personne à UMass Medical Center, il a fait le programme de 8 semaines, il y a longtemps. Hein. Ça devait être en 91 ou en 92. Et il était tombé d'un toit. Il était couvreur. Hein. Puis en plus, il avait fait partie jeune à d'une équipe de hockey sur glace. Et ça, c'est brutal. Dans ces sports, on se casse le dos très vite. On tombe sur la glace, on se bat, enfin, on rentre dans les autres. Donc finalement, il était en petits morceaux. Sa colonne vertébrale était fracassée à plusieurs endroits. Et il était dans une souffrance extrême. Ça le rendait... Donc, il avait sa femme, il avait un enfant. Mais ça le rendait impossible à vivre avec. Parce que il ne voyait pas la fin de la douleur dans ses journées. Et il n'y a que quand il dormait qu'il pouvait ne pas la sentir. Et donc, ce monsieur, quand il a été voir le docteur au centre médical de l'université de Massachusetts, là où Jon Kabat-Zinn proposait ses programmes de 8 semaines, eh bien, à lui, comme à beaucoup d'autres que les médecins traitaient et disaient « c'est impossible, je ne peux plus vous donner de médicaments pour la douleur, je vous ai donné le max, vous allez être accro, ça ne marchera plus de toute façon, donc j'ai plus rien pour vous, je ne peux plus vous aider. » Ah si, une chose, allez voir Jon Kabat-Zinn. Là vous allez apprendre autre chose, vous allez apprendre à le vivre différemment. Et là, c'était une issue de secours pour lui. Et voilà, et c'est dans cette vidéo où on l'interview, parce qu'il était passé à la télé pour montrer justement ce qu'il avait appris, il disait, c'est étonnant, je suis un autre homme. C'est touchant, rien que d'y penser. Il disait... J'ai appris à regarder ma douleur et finalement je me suis rendu compte, il y a des moments où j'en avais pas. Et ça, je l'avais jamais vu de ma vie. Bien sûr, elle revenait. Ça, c'est pénible. Mais il disait aussi, finalement, je suis devenu un autre homme et ma femme et mon fils... m'ont dit que vraiment c'était le noir et le blanc, quoi. C'était magnifique. Ça lui a rendu sa vie. Il pouvait apprendre à écouter sa douleur et arrêter de paniquer et de résister. Et ce qui se passe, ce qu'on a vu avec la douleur, ce qu'on a compris finalement dans les neurosciences, c'est qu'il y a des circuits neuronaux liés à la douleur qui s'allument dès que la douleur vient, parce qu'on panique. Et ces circuits augmentent la fabrication d'émotions, de pensées parasites et le cercle vicieux. Et dès qu'on... Et alors, ce qui est terrible, ce qu'on a vu dans les cliniques de la douleur, c'est que ces patients, finalement, vivent constamment avec la douleur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de la douleur, et comme ils ont peur, ils y pensent tout le temps. Et dès qu'ils y pensent, pof ! Le signal se met en marche et la douleur s'active. Donc il y a une mémoire qui se positionne dans le cerveau et qui active la douleur, même si vous n'avez pas la douleur. Vous n'avez pas mal, mais dès que vous y pensez, pof, vous avez mal. Et donc ces personnes apprennent finalement à observer leur douleur et observer que finalement ils sortent de ce cercle vicieux et ils arrivent à vivre des moments sans la douleur. Parce qu'ils ne tombent plus dans ce circuit infernal qui tourne en rond comme une tornade. Vous comprenez ? C'est magnifique. On peut même observer, donc grâce à la pleine conscience, nos pensées ou nos émotions. On peut très bien s'énerver dans un dîner de famille et continuer à s'énerver et à dire des choses qui montrent notre colère, mais en même temps, il y a une partie de nous qui est là à se dire « Oh, regarde, tu t'énerves, t'as vu comment tu réponds, t'as vu ?» Et c'est vrai, et c'est marrant, parce que finalement, on est deux personnages à la fois. La personne qui est dans l'engrenage, complètement embué, complètement vampirisé par ce qui se passe, et une partie de nous qui supervise le tout et qui regarde. Oh, regarde comment tu t'énerves aujourd'hui. Tiens, ça recommence, t'as vu? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et finalement, à partir de ce personnage qui supervise, on peut se dire, ah ben tiens, aujourd'hui, je ne vais plus faire comme je fais d'habitude dans la famille. C'est-à-dire jeter ma fourchette, puis m'en aller, ou je ne sais pas moi, un comportement qui va créer des troubles. Je vais me taire, je vais dire d'accord, bon, on n'est pas d'accord, je suis d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord, et puis on laisse tomber. Et je vais dîner, et voilà. Voilà, ça nous donne la capacité de contrôler finalement ce qui se passe. On n'est plus emporté par ça. La pleine conscience, ça nous permet de voir aussi l'histoire universelle et l'interdépendance de ce qu'on vit en fonction de ce qu'il y a autour de nous, et que ce qui se passe autour de nous, on en fait partie. Hein ? Le réchauffement climatique, les migrants, tout ça, on en fait partie. Donc, grâce à la pleine conscience, on est capable d'inclure tout ça. On voit les cycles inévitables des cycles, par exemple, s'il fait très, très sec, très chaud, comme récemment, il y a des feux innombrables, hein, comme en Amazonie ou en Australie. Et puis, s'il fait très humide, il y a des inondations. Il y en a eu énormément dans le sud de la France. Donc, ça nous permet de prendre en compte et de décider peut-être de le vivre différemment, avec peut-être plus de clarté, plus d'intérêt aux populations qui souffrent, et puis peut-être d'essayer de faire quelque chose, voilà. Bon, donc la pleine conscience, ça apporte des tas de choses. Hein, et il y a plusieurs styles de pleine conscience aussi, la pleine conscience du corps et du ressenti corporel, mais il y a aussi la pleine conscience de la respiration, et vous le savez, dans toutes les méditations, elles sont différentes, hein. La méditation du souffle, il y a la pleine conscience avec les pensées, hein. Voilà, plusieurs choses, On peut avoir une attention pure et simple de tous les phénomènes qui se présentent à nous, qui arrivent et qui disparaissent. On peut utiliser l'attention pour devenir de plus en plus précis dans le minutieux de la vie quotidienne, si bien que le banal disparaît. N'importe quelle petite chose qu'on fait et qui avait l'air banal avant, parce que on était dans l'automatisme, ça ne l'est plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je détestais me laver les dents, et maintenant j'adore, parce que chaque fois c'est différent. Une autre personne m'a dit, moi c'était l'aspirateur et le balai. Et bien maintenant j'adore, parce que alors là, en pleine conscience, c'est autre chose. Voilà. Hein. D'autres c'est faire la vaisselle, etc. Donc voilà, cette trame, vous voyez, elle est dans tous les chemins de la vie qu'on prend tous les jours, toutes les minutes de notre vie. Alors maintenant, on va passer aux trois facteurs qui nous énergisent, qui nous donnent de l'énergie, hein, qui nous ravivent. Hein. Ça, c'est, on en a besoin quand on se sent fatigué, surmené ou nerveux ou anxieux à cause de choses qu'on n'arrive pas à solutionner, des problèmes qu'on a, etc. Bon, donc l'investigation, et ça vous le connaissez, la connaissez quand même certainement, je vous redis ce que c'est au cas où. L'investigation, donc, c'est ce qui se passe quand vous décidez finalement de creuser pour comprendre quelle est la racine de la souffrance que je suis en train de vivre. C'est ça. Hein? C'est-à-dire que quand on voit un pissenlit, si on fait que d'arracher la fleur, revenir au souffle, ça ne sert à rien. L'esprit par ailleurs, il est distrait à nouveau par le problème qu'on a, on revient au souffle, il est distrait, on revient au souffle, et on fait une heure et on perd du temps. C'est pas une bonne pratique pour ce genre de problème. Là, c'est l'investigation, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, s'il y a un pissenlit qui pousse là, c'est la métaphore, eh bien, il doit y avoir une racine. Je vais arrêter d'arracher le pissenlit chaque fois, je vais plutôt prendre un objet pour plonger jusqu'au début de la racine et l'enlever. Et dès que j'ai enlevé toute la racine, le pissenlit ne poussera plus. Donc c'est la racine, ça c'est l'investigation. Allez profondément en vous-même. Et donc, elle est faite, je crois que c'est Tara Brach, une Américaine, qui a décidé d'expliquer cela avec ces quatre étapes qu'on appelle RAIN, R-A-I-N, ça veut dire la pluie en anglais. Le R, c'est pour reconnaître qu'il y a un problème. Ça suffit, on ne va pas retourner pendant une heure, chaque fois retourner sur le même problème et se mordre la queue comme un serpent qui tourne en rond. Ça mène à rien. Ça nous fatigue et puis on perd notre temps. Reconnaître qu'il y a un problème. Très bien. Accepter. Voilà. Accepter la difficulté. Accepter qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire face. Accepter qu'on est triste, ou qu'on est jaloux, ou qu'on est en colère, ou quelque chose qui jusqu'à maintenant peut-être était inacceptable. Parce qu'on a peut-être appris, de par notre éducation, que ça ne se fait pas, par exemple. Hein? Dans beaucoup de foyers, il n'était pas question de se mettre en colère. Surtout chez les femmes. il fallait qu'elle se taise. Tais-toi et sois belle, voilà. Hein, il y a eu plusieurs décennies là-dessus. Et ravaler leur colère. Ces pauvres femmes, elles en finissent à devenir dépressives. C'est ça la dépression. C'est de ravaler des émotions qui devraient sortir. Donc, reconnaître, accepter. R-A-I-N. Le I, c'est l'introspection. L'introspection, c'est la partie la plus délicate de l'investigation. Parce que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment garder la concentration sur l'émotion qu'on vit. C'est la cible mouvante de l'émotion qui fait sortir peut-être une mémoire, quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 8 ans, par exemple, vous voyez. Et là, l'image, le souvenir imagé nous revient. Tiens, j'ai mon père au-dessus de moi, là. Il est en train de me crier dans l'oreille. Quelque chose comme ça, par exemple. Et puis, finalement, l'émotion qui vient à ce moment-là, qu'on a vécu quand on avait 8 ans et qu'on n'a jamais pu solutionner, parce que personne ne nous a aidés et on l'a carrément occulté le reste de sa vie. Depuis ce jour où on décide finalement d'écouter ce qui se passe. Et donc, cette émotion va monter, la peur peut-être. La peur quand quelqu'un commence à élever la voix. Ah, ça y est, voilà. Je me retrouve dans ce petit cinéma que j'ai vécu à l'âge de 8 ans. Et là donc, dans cette introspection, c'est important de rester avec ça. Vraiment le nez collé dans le caca. Avec cette peur et avec ce père qui est au-dessus de vous. Voyez ? Et de voir comment ça s'articule. Il y avait peut-être la mère en face, elle disait rien. Il y avait peut-être les deux frères et sœurs qui étaient plus jeunes, eux ils avaient peur, donc ils disaient rien non plus. Qui sait ? Mais en tout cas, ça va revenir. Et là, le N de Rain, c'est ne pas juger, ne pas se juger et ne pas s'identifier. Ça veut dire que, étant donné que vous avez peur dans cette situation, ne pas vous dire « je suis une personne peureuse, voilà, j'ai peur de tout ». Non, ça c'est une identification. C'est une aberration. Vous avez peur de ce scénario particulier, voilà. Et comme c'est une plaie béante qui n'a jamais été guérie, chaque fois que vous entendez des cris et de l'énervement d'une personne envers vous, pof, ça remonte. La plaie est ouverte et elle est toujours là. C'est tout. Ne pas se juger, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur les bancs des accusés, personne ne... Vous allez là, maintenant... Faire un autre travail, c'est celui de reconnaître ce qui se passe et cette partie de vous qui est adulte et qui veut bien voir les choses telles qu'elles sont dans Brain, cet adulte va aller chercher l'enfant intérieur qui a 8 ans et qui est coincé dans cet espace-temps et qui n'en est jamais sorti. Et vous, vous allez chercher cet enfant, le prendre par la main et le ramener et lui dire « Maintenant, tu ne seras plus jamais seul. Je serai toujours là avec toi. Et quand tu as peur, je l'entends parce que je viens de toi. Ce que tu vis, je le connais. Ça vibre chez moi. Donc, chaque fois que ça arrive, je serai là. Et je serai ton protecteur. » Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte finalement que vous avez des outils. Ça ne veut pas dire que, quand vous vous retrouvez dans une situation à nouveau où quelqu'un vous crie dessus, ça ne veut pas dire que vous allez être impassible. Non, vous allez avoir peur à nouveau, c'est normal. Mais vous allez vous dire, ah, maintenant je sais. Quand cette personne est partie, je ne lui réponds pas d'ailleurs, je vais laisser. Quand cette personne est partie, moi je rentre chez moi, je vais faire ma méditation et je vais accompagner l'événement qui vient de m'arriver. Et petit à petit, vous apprenez quels sont les outils qui vont vous aider. Plus tard, vous prenez plus d'assurance et vous êtes capable finalement peut-être de vous retourner vers l'assaillant verbal et lui dire « Écoute, ça suffit, t'as pas besoin de me parler sur ce ton, etc. etc. » Vous voyez, ça vous apprend à changer. Donc ce changement, il se fait progressivement, avec chaque fois des remises à niveau que vous faites seul, en méditation. D'accord ? Bon, ça c'était l'investigation. Le premier des trois facteurs de l'éveil qui énergise, qui donne de l'énergie. Le deuxième, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, c'est fascinant. Quand on pense à énergie, pour moi, ce qui vient, c'est ce qu'on a appris finalement dans l'atome. C'est-à-dire que quand un atome tourne toujours autour du noyau, du nucléus, avec le même rayon, la même distance, mais si on le déloge d'une façon ou d'une autre, il va sauter dans un autre rayon et créer de la chaleur et un changement. Donc, ça va très loin, bien sûr, hein. C'est toutes les bases de l'électricité et de l'air atomique. Mais en plus, c'est un saut quantique. Maintenant, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des sauts quantiques. Nous, comme ces atomes. Comme ces particules atomiques. On peut faire des sauts quantiques. C'est-à-dire que c'est pas forcément progressif, notre changement. Ça peut être, pouf, un revirement, et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Et cette chose qui vient de se passer, ça crée de l'énergie. Ça crée de la chaleur, ça crée de l'énergie. Et là, on se sent libéré. Et on se rend compte qu'on peut faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, c'est un peu... Les nœuds psychiques, c'est un peu la même idée. C'est quand on travaille un nœud psychique, ça va dégager beaucoup d'émotions, de chaleur, de larmes, de tas de choses. Mais après, on se sent léger, très très léger. Parce qu'on n'est plus tenu par ces boulets de souffrance du nœud psychique qui nous tenait esclaves. D'accord ? Donc, cette énergie, alors on en parle beaucoup dans les pratiques de yoga, les pratiques de tai chi, donc c'est le chi, ou en Inde c'est la kundalini ou le prana, etc. Donc il y a des tas de noms pour cette énergie finalement qui est en nous et qui est là toute notre vie. Et cette énergie, elle est même là quand on meurt. Nos cellules sont toujours Enfin, elle meurt, bien sûr, mais elle se transforme. Elle se transforme. Hein. Et elle nourrisse la terre, et y a un cycle. Donc, je voudrais vous lire quelque chose de Gurdjieff, qui est cet homme du début du XXe, qui cherchait justement à enseigner la pleine présence, la pleine conscience aux gens. C'était nouveau à ce moment-là. C'est étonnant, hein ? Un siècle plus tard, tout le monde en parle. C'est fascinant. Il dit... L'attention permet l'élévation du taux vibratoire du mental face à l'effort de volonté et l'éveil des centres émotionnels. Pour extraire l'énergie cachée à l'intérieur de la matrice, la faire passer d'un état brut à un état raffiné, liquide, gazeux, incandescent, qui suppose un effort grâce à l'attention, vous voyez, grâce à votre pratique de l'attention, vous pouvez transformer des choses. En maintenant l'attention, sans parasitage du cerveau, alors c'est là où il faut une concentration pure, hein, comme dans les jhanas, ce que je vous ai expliqué, sans parasitage du cerveau et des émotions. C'est là où on apprend finalement à épurer des émotions anciennes qui remontent encore et encore et encore, si bien qu'on peut les accueillir avec beaucoup plus de chaleur et de visibilité. Alors, l'énergie cachée, elle est divisée sur l'intériorité et l'extériorité. Elle n'est pas qu'intérieure, elle n'est pas qu'extérieure. Elle est dans les deux pôles. Et c'est vrai, quand quelqu'un change intérieurement, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu as ? Tu as changé de visage. » Ou d'autres personnes, on leur dit « Mais oh, tu as des couleurs dans ta figure, dans ton visage, d'habitude tu es toute blanche. » Enfin, des choses qui arrivent, finalement, ça nous transforme. C'est l'énergie qui rentre dans toutes les cellules et qui parle. C'est élever en soi une présence libre face aux pensées, aux sentiments, et accéder peu à peu au seuil du rappel de soi. C'est ça, hein, c'est ce qu'on fait, revenir à soi, revenir, sati, la pleine conscience. C'est ça. En arrêtant les hémorragies d'énergie inutile, c'est ça. Quand on n'a plus d'énergie, c'est parce qu'on a des hémorragies d'énergie. Je dispose d'un capital énergétique plus grand en arrêtant ces hémorragies d'énergie. Et je peux créer un lieu de résonance qui deviendra lieu d'oasis et de paix. C'est bien dit, hein ? Par le rappel de soi, l'être cesse d'être dépendant de l'énergie d'autrui sur un plan psychologique et émotionnel et accède au rang de l'autonomie dans son entendement et dans ses actes. C'est magnifique. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont vous vampiriser, elles projettent leurs problèmes sur vous, et elles vous mettent le grappin dessus, quoi. Et après, vous vous sentez mal. Vous dites, ah oh là là, cette personne, oh, j'arrive pas à m'en défaire. Ça. Oui, en effet. Elle n'a pas purifié ses états et elle vous les lance à la figure. C'est ça qui arrive. Donc c'est très bon cette façon de décrire l'énergie qui est en nous et qui peut vraiment être explorée grâce à la pratique de la méditation. Bon, j'en ai assez dit sur l'énergie. On peut dire des tas de choses, mais on va continuer. Donc, le troisième facteur qui est énergisant, c'est la joie. On appelle ça aussi l'extase ou le ravissement. Ça motive. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai que la motivation, si on a de la motivation, là, c'est aussi c'est producteur de quelque chose de bon, de bienveillant. Et alors, c'est Swami Vivekananda qui l'a dit, dans le yoga de la connaissance. Vivekananda est un élève de Ramakrishna. Ça remonte très loin. Ramakrishna, c'est dans les années 1880. C'était un grand saint. Il faisait des miracles. Il était étonnant. Cette personne, donc, attirait beaucoup d'élèves. Vivekananda en a été un, et a été probablement un de ses meilleurs élèves. Et Ramakrishna lui a dit, « Eh bien, écoute, tu vas en Amérique et tu vas parler au monde. » Et Vivekananda, c'était un discours à Chicago pour un forum sur les religions mondiales. Vous avez dû en entendre parler déjà. C'était en 1890 ou 95, quelque chose comme ça, 95, je ne sais plus. Et il disait que finalement les religions ne devraient pas être quelque chose qui nous sépare, mais qui nous aide à voir tous vers la lumière. Hein. Et il parlait très bien. Et il n'avait jamais rien préparé. Il n'avait jamais été en Amérique. C'était la première fois. Et il a fait fureur. Et tout le monde s'est emballé. Et à partir de là, il a été porté sur des lauriers et finalement, il restait en Amérique pour enseigner. Alors il dit, la philosophie nous dit qu'il y a une joie qui est absolue, qui ne change jamais, que cela ne peut pas être la joie et les plaisirs de la vie conventionnelle. Vous voyez, ça c'est différent. Mais les textes du Vedanta, donc ce sont des écrits très anciens, qui viennent après les Védas, montrent que tout ce qui est bonheur dans cette vie sur Terre est une petite partie de cette grande joie, parce que c'est le seul bonheur qui existe. Vous voyez donc ce qu'on appelle bonheur souvent, c'est une petite partie. Mais quand on médite, il y a une grande joie qui est beaucoup plus grande que ça. Et c'est là où on se rend compte que on est satisfait avec beaucoup de choses, on n'a plus besoin d'autant de choses pour être heureux. La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, hein, c'est ça. À chaque instant, nous vivons dans la joie absolue. Mais elle est ensevelie, incomprise et caricaturée. C'est ça le problème, hein. Même celle d'un voleur content du résultat de son acte, la ressent, cette joie. Mais elle est devenue obscure et souillée de toutes sortes de mensonges et d'incompréhensions. Pour comprendre cela, nous devons revisiter nos constructions mensongères pour retrouver la source positive de la joie. Nous apprenons à déceler l'ignorance et la tromperie pour que la vérité soit apparente. Voilà. Donc, on peut dire énormément de choses sur la joie, mais la meilleure façon de la connaître, c'est de méditer et d'y arriver. Et ça, ça vient dès que vous avez de la concentration. Dans le premier niveau, le premier jhana, la joie vient. Donc, c'est parfait. Et il y a différentes sortes de joie, mais en gros, c'est quelque chose qui vous électrifie, vous donne de l'énergie, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe. Bon, donc ce sont les trois qui énergisent là, hein, l'investigation, l'énergie et la joie. Maintenant, je parle des trois dernières qui calment. En effet, on a besoin des deux, hein, un équilibre entre les deux. Donc il y a la tranquillité, et c'est la paix, c'est quand on se sent apaisé. Et c'est étonnant parce que je trouve que quand les gens m'appellent et qu'ils disent, toutes les semaines il y a quelqu'un qui appelle, qui dit « je veux la paix, je veux trouver la paix, je suis tellement… » mal dans ma peau, j'ai des tas de problèmes, de choses. Je veux trouver la paix. Et quand je lis sur votre site qui s'appelle l'espace de silence que vous proposez, vraiment formidable, je veux venir et je veux faire ça. Je veux me mettre dans le silence, à l'écoute et être en paix. Et ça donne la chair de poule parce que finalement, c'est ça une des premières choses que les gens demandent. Quand je leur dis « qu'est-ce que vous recherchez avec ces programmes de pleine conscience ?» Ils disent la paix. Avant tout, la paix. Et ça, on se rend compte, beaucoup de personnes qui font des retraites individuelles ou en groupe, le programme de 8 semaines ou autre, me disent « Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Là, je suis en paix. » Il y a une certaine quiétude, il y a un bien-être qui en découle. Finalement, quand on ressent cette tranquillité, ce qui se passe, c'est que les épaules descendent. La respiration devient de plus en plus ample et donc on passe rapidement dans le fonctionnement de la décontraction, de la relaxation et finalement on se rend compte qu'on dort mieux. Il y a des gens qui me téléphonent après ou qui m'écrivent et me disent « Ah ! Une journée de pleine conscience, écoute, j'ai dormi comme un bébé. Ça ne m'était jamais arrivé. » Et sans cacher. Des tas de choses. Il y en a d'autres qui me disent « Oh, voilà, c'était ça. J'ai jamais vécu ça, mais alors cette journée, oh, je reviens tout de suite. Je veux revenir. » Ils disent « J'ai plus mal. Je me sens plus tiraillée. J'ai plus l'esprit ailleurs. Je suis en paix. » Oh, c'est magnifique. Ils disent, mais c'est ça. La vie est belle comme ça. Si je pouvais vivre comme ça tout le temps. Et je leur dis, bah oui, c'est la pratique. Hein. Bon, ben voilà. En voilà un autre qui calme, un autre facteur, la concentration. Hein, on en a déjà parlé hier. Mais c'est vrai que quand on voit des enfants hyperactifs à cause des additifs, des poisons qu'il y a dans l'air, dans l'eau, dans la terre et tout ce qu'ils mangent, ça crée l'hyperactivité, c'est vrai. Il y a énormément d'enfants qui vivent ça. Et finalement, ils peuvent pas se concentrer. On essaye de les garder un petit moment, et puis pof, ils partent ailleurs. Et finalement, là, on peut voir que... Moi, j'étais avec des jeunes il y a quelques années, des amis de mon fils, et c'était une petite surprise partie pour l'anniversaire de mon fils. Et on s'est mis à dîner, à table, mais finalement, on n'a pas vraiment pu manger ensemble. Parce qu'il y en avait toujours un ou deux qui étaient soit sur l'ordinateur, soit au téléphone, soit à la cuisine, soit... Et le téléphone sonnait tout le temps. Il disait « Ah, excusez-moi !» Il quittait la table, il commençait... Mais mon Dieu, c'est stressant de ne pas pouvoir avoir son temps à soi. Moi, quand je suis à la maison, que j'ai quelqu'un qui vient... Même si c'est une amie, un ami, je décroche le téléphone. Il n'est pas question qu'il sonne. Ou alors, si je ne l'ai pas décroché, la personne me dit « Il sonne, tu réponds pas ?»« Ah ben non, je suis avec toi. » C'est une évidence. Ça, c'est un facteur qui favorise la concentration. De pouvoir se dire une chose à la fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Ils arrivent au programme et disent « Ah, oh, j'ai jamais fait une seule chose à la fois, ça me fait peur. Tu nous demandes ça dès la première semaine. Mais moi, j'en fais 3 ou 4 à la fois. » Je leur dis « Non, mais c'est impossible. L'esprit n'est pas capable. Vous savez ce qu'il fait, votre esprit? Vous croyez en faire 3 à la fois? C'est pas vrai. Il saute de l'un à l'autre. C'est l'hyperactivité constante, du multitasking. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, les cellules, elles n'ont plus le message de paix. Elle panique. Ça mène à des tas de maladies. La fibromyalgie, la fatigue chronique, tout ça, ça en fait partie. Quand j'ai ces personnes avec la fatigue chronique ou la fibromyalgie, par exemple, qui viennent au programme et qui apprennent à faire une seule chose à la fois, j'en ai une qui m'a dit « Oh, tu sais, Anne, c'est étonnant. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de faire le scan corporel, de faire une seule chose à la fois, après, dans ma journée, et j'ai entendu que j'avais des douleurs. J'avais jamais écouté. Je faisais des tas de choses en même temps, comme ça je n'entendais pas ma douleur. Donc on surfe au-dessus de sa douleur. Et bien c'est pas étonnant que ça mène à des maladies. Alors cette personne m'a dit, c'est étonnant parce que là j'ai senti que j'avais mal. Et donc je me suis arrêtée, j'ai écouté et ça s'est calmé. La douleur s'est calmée, elle m'a dit. J'avais plus mal. Elle m'a dit, j'ai jamais vécu ça. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc la concentration, c'est donc quelque chose qui va vous aider à focaliser l'attention. L'unicité de l'esprit, hein, c'est une composante très importante. Elle est dans tous les systèmes de concentration. L'unicité de l'esprit. L'esprit sur une chose. Voilà. Et ça, en pratiquant ça, on arrive à des états de concentration. De plus en plus subtil. Ça demande beaucoup de travail. Parce que l'esprit n'a pas l'habitude. Et il part toujours. Il est complètement distrait, constamment. Les personnes, au début du programme, MBSR, elles me disent « Mais impossible, moi j'y arrive pas. Je suis partie ailleurs pendant 2 minutes. Je reviens 3 secondes, je repars. » 5 minutes, je reviens 2 secondes, je repars. Elles me disent, non mais c'est impossible. Je leur dis, oui, mais attends, ça va venir. Donc, La concentration, c'est quelque chose qui calme. Et je donne un peu l'image de une poule qui s'assoit sur son œuf pour le couver. C'est ça la concentration. Si elle va à droite et à gauche, ben son œuf, il n'y aura pas la température. Donc il ne va pas naître le petit poussin. Il faut rester sur l'œuf. Il faut le couver. C'est pareil avec la concentration, c'est ça. C'est tout ce que c'est. Il faut rester. Et le troisième, donc facteur qui calme, donc c'est le dernier des sept, hein, c'est l'équanimité. Et l'équanimité, c'est l'équilibre. Hein? C'est tenir pour égaux. Et l'ennemi proche, c'est l'indifférence. Il faut faire attention. Si on est indifférent à certaines choses, on n'est pas équanime. Non. C'est une illusion. C'est pas de l'indifférence. On peut ressentir du plaisir et de la douleur. Plaisir physique, douleur physique. Mais on peut apprendre petit à petit à trouver une position équanime entre les deux. Où on se calme, on est à l'écoute, la douleur est peut-être moins forte, ou on a cette capacité d'observer la douleur qui va aider à calmer le système nerveux qui sera moins irrité et il y aura moins de résistance, etc. Et pareil avec le plaisir. Hein, le plaisir et la douleur, ce sont des phénomènes changeants qui arrivent tout le temps. Hein. Parfois, on se fait plaisir, c'est formidable. Mais c'est rapide. Ça arrive et puis ça part. Enfin, on se fait plaisir quand on s'achète un CD ou une télévision nouvelle ou une voiture, on se fait plaisir. Puis une semaine plus tard, on a oublié, on conduit la voiture. Et donc, c'est vrai que là, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils se font très plaisir à acheter des tas de choses. Puis après, ben, ils se suicident parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas plus heureux. Et qu'ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et pourquoi je ne suis pas heureux alors ? Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi, se disent-ils. Ah mon Dieu ! Ça c'est un égarement total. D'autres variations de l'esprit peut être la variation, on varie entre le blâme et l'éloge. Hein, on veut toujours l'éloge, la louange et pas le blâme. Hein? Et on est toujours à chercher à faire des tas de choses pour avoir l'air d'eux. Hein? Donc quand quelqu'un est très connu, ça arrive beaucoup, hein, les hommes politiques, c'est voilà, hein, ça c'est ce qu'il y a de pire. Hein? Et puis quelque chose leur tombe dessus, on montre un film, c'est vraiment... Voilà, ça les montre dans les situations les plus pénibles, horribles, et ensuite, c'est le blâme, et ils sont bannis des postes et des possibilités. Donc, c'est là où il y a cette bipolarité de choses qui peuvent nous arriver, c'est important de trouver le juste milieu dans ces bipolarités, parce qu'on peut les vivre à tout moment. Donc le plaisir et la douleur en est une. L'éloge et le blâme en est une autre. La célébrité ou le déshonneur aussi. Hein, voilà. Le gain ou la perte. Le succès ou l'échec. Finalement, vous voyez, il y a ces deux pôles et on oscille toujours entre l'un et l'autre. Et on a besoin d'apprendre à ouvrir son cœur afin de vivre ça de façon équanime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus, on fait attention de ne pas s'identifier à un personnage qui se met sur le banc des accusés, si c'est quelque chose de désagréable, comme la douleur, le blâme, le déshonneur, le dénigrement, la perte ou l'échec. Et c'est dans ces moments-là que l'équanimité est très importante, parce que ça nous permet d'apporter la tendresse du regard intérieur envers nous-mêmes, face à la tristesse, face à, peut-être à la souffrance, parce que des personnes nous regardent avec un regard malveillant, des choses comme ça, et on a besoin de se donner ça, on a besoin de prendre soin de ça, de soi, avec ça. Et la même chose avec ce qui est agréable. Plaisir, éloge, louange, célébrité, notoriété, gain et succès, tout ça. On est à la recherche de tout ça, mais c'est pareil. C'est important de faire attention, de ne pas tomber dans le panneau et d'aller à la recherche de tout ça. Parce que là n'est pas le bonheur. Le bonheur, il est dans quelque chose qui est différent, qui est plus profond. Donc, je voulais voir si je peux trouver quelque chose sur le bonheur pour vous le lire. Et on va y arriver, le voilà. On y arrive. Voilà. Il existe deux sortes de bonheur. L'hédone. H-E-D-O-N-E. Ça mène à l'hédonisme. L'hédonisme. C'est la recherche du plaisir sensible et immédiat, c'est-à-dire le plaisir des sens, les cinq sens. Et l'autre bonheur qu'on appelle eudaimonia, la recherche du bonheur et du bien-être, issue de la connaissance et de la cohérence entre soi et le monde, ce deuxième bonheur. Chacun entraîne une réponse cellulaire différente selon une étude de l'Université de Caroline du Nord. Barbara Fredrickson, elle est professeure en psychologie, elle nous explique qu'un bonheur eudaimonique est lié à un objectif de réalisation personnelle et qui donne un sens noble à la vie, et qui aura des bénéfices pour la santé de nos cellules. Alors que la recherche d'un bonheur hédoniste peut avoir des effets négatifs, et cela en dépit du bien-être éprouvé immédiatement. On pourrait appeler ça le faux bonheur, vous voyez. Et ça, avec la méditation de pleine conscience, on l'apprend à trouver le vrai bonheur. Donc voilà, ça c'était les 7 facteurs de l'éveil. Merci.